Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Bon, je suis content parce que je suis prêt à la partager. Et si vous voulez juste prendre vos Bibles dans vos mains, si vous n'avez pas une Bible, prenez la feuille que vous avez reçue à la porte. Nous allons faire une déclaration de la foi que nous aimons beaucoup faire ici à l'Église de la vie comblée. Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche, en croyant du cœur, s'accomplit. Donc on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit. Est-ce que vous pensez à ce que vous dites? OK. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes un buisson séché ou un arbre planté? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre dans une minute pourquoi je vous pose la question. En fait, c'est le titre du message. Buisson séché ou arbre planté? Trouver le bonheur et la stabilité dans un monde desséché. Savez-vous que aujourd'hui nous vivons dans un monde qui n'est pas tellement stable. Vous êtes d'accord? Si on regarde économiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui brassent. On a juste allé faire le plein à la station de service et mettre du gaz dans le char pour savoir que oh, les choses changent, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez remarqué que ça prend quelques sous de plus pour faire le plein, n'est-ce pas? Et mais il y a pas mal de gens qui font pas juste le plein, ils font des plaintes avec ça, n'est-ce pas? Et ils se plaignent pas mal de, ils grondent même à chaque fois qu'ils font le plein. Donc il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui et qui parlent de l'instabilité, l'inconstance, insécurité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, nous sommes capables d'arriver à la place où on peut toujours trouver le bonheur et avoir une stabilité et avoir une vie qui est comblée, épanouie et heureuse, même si tout ce qui se passe autour de nous fait le contraire. Amen? Ça, c'est la beauté de faire partie du royaume de Dieu. Et c'est quelque chose. Depuis des années, j'ai des choses qui roulent dans mon cœur, si vous voulez, les versets de la parole de Dieu, les choses que le Seigneur m'a montrées dans la prière même, à propos de l'importance de devenir un arbre dans la maison de l'Éternel. Vous savez que la Bible parle beaucoup des arbres. La Bible donne cette illustration, cet exemple d'un chrétien qui est comparé, un croyant qui est comparé à un arbre planté près des courants d'eau. Et je sais que c'est vrai que chaque individu et chaque église locale est appelée à devenir un arbre pour le Seigneur. En fait, je m'en souviens, il y a quelques mois, je viens de le voir il y a 2-3 jours, une petite carte où j'étais dans la prière et je priais pour l'église. Et je crois vraiment que le Seigneur m'a donné une parole à propos de notre église locale, que le Seigneur veut faire de nous un arbre, un grand arbre en fait, dont les branches vont atteindre jusqu'à l'autre côté du fleuve et même jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans les branches de cet arbre, les gens vont être capables de trouver du refuge. Comme les oiseaux qui vont faire des nids, qui vont trouver une place de sécurité dans les branches d'un arbre. Cet arbre est supposé de porter du fruit qui va amener la guérison aux nations, qui va amener la nourriture à ceux qui ont faim. Et ça, c'est vraiment l'image de notre Église. Et c'est une chose que je porte dans mon cœur depuis l'âge de 20 ans, parce que je m'en souviens bien, Tanya et moi, on était dans une... Tout de suite, 2 semaines après notre mariage, on était dans une conférence missionnaire. Il y avait un grand homme de Dieu qui prêchait, qui parlait, quelqu'un qui était dans le ministère, qui était missionnaire pendant des années. Et il parlait à tout le monde, il disait, « Quand vous faites du ministère, ne distribuez pas juste du fruit. » Parce que si vous donnez une banane à quelqu'un, il peut manger pour une journée. Mais si vous voulez vraiment faire un impact, plantez un arbre. Et il parlait de l'importance de planter les églises qui allaient croître, grandir et qui allaient faire un impact dans le monde. Et je crois que l'Église chrétienne, la vie comblée, c'est un grand arbre dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pas le seul arbre. Il y a beaucoup d'autres arbres. Il y a des bonnes églises dans cette ville, d'autres assemblées qui font des bonnes choses, mais nous avons un rôle à jouer et il faut qu'on le fasse. Mais si notre église va faire sa part, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez votre part. Amen? Donc, la question qui se pose, buisson séché ou arbre planté, ça vient d'où? Ça vient de Jérémie chapitre 17. On va le lire ensemble. C'est dans vos notes ou c'est sur le PowerPoint aujourd'hui. Jérémie chapitre 17. Le prophète Jérémie a dit ceci. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, on voit la personne qui fait confiance aux hommes ou les moyens de la chair et qui compte pas sur Dieu pour avoir le secours et l'aide. Ça, c'est une personne qui va être maudite. Il est comme un buisson dans le désert. Un buisson qui se trouve où? Dans le désert. Et il ne verra pas arriver le... Combien de vous voulez vraiment voir arriver le bonheur dans votre vie? Si vous ne voulez pas voir arriver le bonheur, il y a un problème. Parce que Dieu vous a créé pour vivre dans le bonheur. Amen. Donc, il ne verra point arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Donc, ça, c'est l'image de quelqu'un qui fait confiance à la chair, à ses propres capacités. Une personne qui ne se confie pas en l'Éternel, c'est une personne qui ne verra jamais arriver le bonheur. C'est une personne qui va vivre dans le désert. C'est une personne qui va avoir une vie misérable. En fait, dans le Louis II, le mot « buisson » ici est traduit par le mot quoi? Misérable. Tout le monde est misérable. Quelqu'un qui se confie dans la chair, il va être comme un misérable dans le désert. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Est-ce que vous êtes là ce matin? Là, on commence avec qu'est-ce que vous ne voulez pas pour arriver à qu'est-ce que vous voulez. Moi, je veux pas être un misérable dans le désert. Je veux pas être un buisson séché. Mais verset 7 nous donne le contraire. Béni soit l'homme. Est-ce que vous voulez être béni? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté. Tout le monde dit un arbre planté. Mais pas n'importe où, un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes et il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Avez-vous remarqué cela? Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Savez-vous qu'il y a des problèmes qui s'en viennent sur la planète Terre? On a des promesses, même dans la Bible, que dans la fin des temps, les choses vont aller en s'empirant. Mais pour nous, qui sommes dans le Seigneur et qui mettons notre confiance en lui, nous n'avons rien à craindre. On n'a pas à s'inquiéter dans l'année de sécheresse. Donc, question encore, qu'est-ce que vous voulez être? Un buisson misérable et séché ou un arbre planté, qui porte du fruit et qui s'inquiète de rien? Qu'est-ce que vous voulez être? Combien de vous avez vu des fois qu'est-ce qu'on appelle en anglais du tumbleweed? C'est un mauvais herbe. On a une image de cela, je pense. Et ça, c'est une image de ce que tout le monde peut voir dans le désert. Il y a toutes les petites buissons, les petites mauvaises herbes desséchées. Donc, pense à ça. La Bible dit que quelqu'un qui se confie en la chair, c'est quelqu'un qui est comme un de ces buissons et de ces mauvaises herbes toutes desséchées. Prochaine image, regarde cela. Hein, combien de fois vous avez vu des westerns, hein, ou juste avant le comment est-ce qu'on appelle ça, le combat entre les deux? Le quoi, le duel? C'est juste avant le duel, donc il y a du tumbleweed, il y a ces mauvaises herbes desséchées qui sont en train de rouler dans la rue. La Bible dit que quelqu'un qui se confie dans la chair, c'est comme ça. Quand le vent arrive, quand les problèmes arrivent, quand les choses de cette vie soufflent, ou les tempêtes arrivent, boum, on est emporté à droite, emporté à gauche, et on n'a pas de racines. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui se confie dans la chair. Pourtant, la Bible dit qu'on n'est pas obligé d'être comme ça. On peut mettre notre confiance en Dieu, et qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que vous voyez, c'est un peu clair? On va être comme un arbre planté. Vous voyez le tronc? C'est quelque chose, hein? Les tiges de cet arbre, les racines vont chercher les profondeurs. Et on voit qu'un arbre planté, surtout près des courants d'eau, et ça c'est une clé, planté près d'un courant d'eau. Savez-vous, on a encore cette image, un buisson dans le désert, où, quand les choses vont mal, dans une année de sécheresse, tout meurt. Quand la pluie tombe, les choses peuvent reprendre vie. Et ça, c'est vraiment l'image de beaucoup de personnes, même dans les églises aujourd'hui. Quand les choses vont bien, la vie est belle. Quand la pluie tombe, oh, ça va bien. Mais quand c'est une année de sécheresse, quand les circonstances de la vie, crise économique, problèmes conjugaux, quoi que ce soit, des problèmes dans la famille ou au travail, oh, quand ça va, commence à aller mal, tout est desséché, tout va mal. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut être un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire que même si c'est une année de sécheresse, aussi longtemps que la rivière est proche, on est capable de puiser dans la rivière et d'être ressourcé. Tout le monde autour de nous meurt. Tout le monde autour de nous est en train de sécher. Mais nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que nos racines ont cherché les courants d'eau. Et c'est quoi l'eau dont nous avons besoin? C'est l'eau vive de l'Esprit Saint. Amen. Qui viennent de la présence de Dieu. Il y a un verset en 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, on va le lire ensemble. 1 Pierre 1, 23. Regarde quelqu'un et dis, vous êtes un bon arbre. Cela ne veut pas dire qu'ils ont la tête dure. Tant. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, n'est-ce pas? Mais si on va devenir un arbre, savez-vous quoi? Avez-vous remarqué que même les plus grands arbres du monde commencent très petits? Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que ça prend, c'est une petite semence. Et une petite semence peut devenir énorme. On peut avoir des bonnes semences ou des mauvaises semences. N'est-ce pas? Vous avez juste à regarder dans la pelouse et il y a des... C'est bon quand on a du gazon qui est tout fourni et vert, mais quand les mauvaises herbes commencent à rentrer, avez-vous remarqué que les racines sont assez profondes? Et on voit ici que si nous allons devenir un arbre, on ne devient pas un arbre du jour au lendemain, c'est un processus. On commence tous petit. Comment on commence? Sous forme de semences. Et dans ce verset, puisque vous avez été régénéré, ou né de nouveau, non par une... Quoi? Semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Savez-vous que si vous êtes en Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la semence est entré dans votre cœur et sous forme de semence, Jésus habite dans vous. Mais si vous arrosez la semence et si vous laissez croître la semence, vous n'allez pas rester pareil, vous allez devenir un arbre énorme. Imaginez, dans le naturel, une petite semence. Vous avez déjà vu des séquoias en Californie. Combien de vous avez vu des images des séquoias? Il y a des arbres qui sont tellement grands, le tronc est tellement large qu'on peut... ils ont fait des tunnels dans ces arbres et on peut conduire une auto en dedans. Ça, c'est grand, vous êtes d'accord? Mais ces arbres ont commencé sous forme de semences. Si un séquoia peut devenir si grand, qu'est-ce qu'un chrétien peut devenir? Celui qui est né de nouveau d'une semence incorruptible, une semence qui va rester vivante pour éternité. Vous savez qu'ils ont découvert en Égypte, dans les tombes des pharaons, il y a des pharaons qui ont été enterrés avec les graines. Les graines qui ont des milliers d'années. Ils ont pris ces graines, ils les ont plantées, ils les ont arrosées et ça a poussé, ça a produit du blé. Les semences naturelles qui ont gardé la vie à l'intérieur d'eux pendant des siècles, des millénaires. Savez-vous quoi? Ça, c'est rien comparé à la semence qui se trouve en vous, dans votre cœur. Vous êtes né de nouveau d'une semence incorruptible. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il habite en vous. Et c'est pourquoi vous pouvez avoir cette assurance que, au lieu d'être un buisson séché qui va être emporté par le vent et par les problèmes et par les circonstances, je vais devenir un arbre planté qui ne bouge pas. Quand ça va bien, je vais bien. Quand ça va mal, je vais bien. Quand le monde autour de moi est heureux, je suis heureux. Quand le monde autour de moi est paniqué, je suis heureux. Amen. Quand tout le monde autour de moi est en train de prospérer parce que l'économie va bien, je prospère. Mais quand toute l'économie est en train de couler, je prospère. Amen. Il faut penser comme ça. Savez-vous quoi? Les gens, même pendant la Grande Dépression, il y a beaucoup de gens qui sont devenus plus que riches pendant la Dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur au lieu de se laisser emportés par les circonstances, ils ont décidé d'en profiter et de dire, bon, on va regarder, trouver d'autres façons de faire. J'ai écouté à la nouvelle l'autre jour et tout le monde parle de crise de l'huile par le pétrole, ça va coûter bientôt peut-être 7 dollars le gallon. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Et on peut paniquer ou on peut dire, Dieu va pourvoir mes besoins. Hein? Et comme ils ont dit, il y a certaines personnes maintenant qui disent, mais écoute, il faut regarder le côté positif. Parce que maintenant qu'on est face à une situation grave, l'huile, on est obligé d'admettre que ça va mal. Donc les gens sont sérieusement en train de faire des recherches pour produire d'autres moyens de transport, d'autres moyens d'énergie. Mais il ne faut pas oublier que tout cela va créer des emplois. Ils auront besoin de personnes pour faire cela aussi, n'est-ce pas? Donc, il y a certaines personnes, au lieu de dire, oh, on va couler, ils disent, bon, on va prospérer, on va prospérer. Alléluia, c'est juste des fois une façon de penser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Parce qu'on sait qu'un jour, le système de ce monde, l'économie de ce monde, et ça ne va plus fonctionner. Mais le système de Dieu, l'économie de Dieu va toujours fonctionner. Alléluia. Et si c'est nécessaire, Dieu va m'envoyer des corbeaux pour me nourrir. Et il va, écoute, vous n'avez pas forcément besoin juste d'argent. Vous avez peut-être juste besoin de savoir que c'est Dieu, Jéhovah, Jireh, qui est l'Éternel qui voit et qui pourvoit. Il est toujours là. Il est El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant. Il est toujours là pour prendre soin de vous. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes nés de nouveau d'une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voyez-vous encore le contraste? On a vu le contraste buisson séché, arbre planté. On voit ici un contraste de une parole permanente, une semence incorruptible et l'herbe et la fleur qui dessèche et qui tombe. Savez-vous que si quelqu'un se fie et met sa confiance dans les choses de la chair, dans son compte de banque, dans son emploi, dans sa maison, dans toutes ses affaires naturelles, cette personne va être déçue parce que les choses naturelles vont un jour disparaître. Vous êtes d'accord? Même la personne la plus glorieuse, je vois ça, je devrais peut-être pas le dire, mais je vois ça avec certaines personnes qui sont très proches à moi, des personnes qui, pendant des années, qui ont été des personnes tellement fortes dans le naturel, tellement confiantes, tellement pleines d'assurance. J'ai certaines personnes très proches à moi dans ma parenté que je vais voir dans quelques jours que la dernière fois que je les ai vus, c'est quelque chose de voir qu'ils n'ont plus cette force, ils n'ont plus cette capacité, ils commencent à vieillir et à perdre pas mal les choses. Et la personne qui était tellement sûre de lui-même a de la misère juste à marcher. Amen. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on ne peut pas mettre sa confiance dans la chair. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Parce que Dieu est celui qui nous soutient. C'est lui qui nous rend forts et inébranlables. Amen. Donc, comment est-ce qu'on peut devenir stable? Comment est-ce qu'on peut voir arriver le bonheur dans ce monde desséché, dans ce monde d'instabilité? Il y a un verset qui est venu dans mon cœur cette semaine, Colossiens chapitre 2. Il y a un passage à partir de verset 6 jusqu'à verset 15. Et on va lire cela. Et dans ce passage, j'ai cinq choses que je veux souligner. Cinq choses que si nous les faisons, je crois que ça va. C'est pas les seules choses, mais ce sont cinq choses qu'on peut faire. Les choses terre à terre, si vous voulez, qu'on peut faire pour devenir un arbre planté près des courants d'eau, pour trouver le bonheur et pour avoir de la stabilité. Est-ce que ça vous intéresse de savoir quelles sont ces cinq choses? Colossiens 2, 6. Voici le verset. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Laisse-moi vous dire que recevoir Jésus, être né de nouveau, ça suffit pas. Recevoir la semence incorruptible dans votre cœur, ça suffit pas. Je pourrais vous donner un paquet de semences aujourd'hui, des graines. Et vous pouvez prendre ces graines et les mettre dans votre poche, ou mettre ça dans le garage, ou mettre ça dans la remise. Mais si vous ne prenez pas ces graines, si vous ne les plantez pas, ou même vous pouvez planter la graine dans la bonne terre, dans un pot qui est suffisant. Mais si tu mets la graine plantée qui est dans un terre qui est sec, et tu mets ça dans la remise où il n'y a pas de lumière, il n'y a jamais de l'eau, savez-vous quoi? Probablement ça ne va pas pousser. Vous êtes d'accord? Et c'est la même chose quand nous avons reçu le Seigneur Jésus. Jésus est entré dans notre cœur, mais sous forme de semence. Si on veut que Christ grandisse en nous, si on veut devenir un arbre planté, il va falloir donner accès au soleil et donner accès à l'eau. Vous êtes d'accord? Et c'est ça qu'on voit ici. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Tout le monde dit marchez en lui. Comment est-ce qu'il faut marcher pour trouver le bonheur et avoir de la stabilité dans ce monde desséché? Numéro un, marcher selon les instructions de la parole. Savez-vous que Dieu nous donne les instructions? Et si on veut être stable, si on veut être inébranlable, il faut marcher selon les instructions de la parole. Verset 7 dit, étant enraciné et fondé en lui et affermé par la foi d'après les instructions, soulignez cette phrase, d'après les instructions qui vous ont été données. Avez-vous vu ces trois mots, enraciné, fondé, affermé? Enraciné, on va le dire ensemble, enraciné, fondé, affermé. On va le dire encore, enraciné, fondé et affermé. C'est ça que Dieu veut. Les choses vont aller mal de temps en temps dans votre vie, dans les naturels. Mais si vous êtes enraciné, si vous êtes fondé et si vous êtes affermé dans votre foi, vous allez passer à travers les obstacles, vous allez passer à travers les années de sécheresse et vous n'aurez rien à craindre, vous ne serez pas inquiet. Amen? Ça prend une foi qui est grande, une foi qui est ferme pour passer à travers ces moments difficiles, parce que ces moments vont venir. Ça peut arriver que le médecin vous donne un mauvais rapport. Le médecin dit, vous n'avez que quelques jours, quelques mois, quelques années à vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut être enraciné, fondé et affermé. Amen? Quand vous écoutez la télévision, ils parlent de crise économique, il faut être enraciné, fondé et affirmé par votre foi. Comment est-ce qu'on peut grandir dans la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez être un arbre, il faut que vous soyez arrosé continuellement de la parole de Dieu. Il faut que vous sachiez, au lieu de bombarder votre intelligence, vos pensées et vos émotions avec des mauvaises nouvelles, les émissions à la télévision, où tout le monde dit crise, 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 problème, problème, problème. Pourquoi pas prendre la Bible et lire promesse, promesse, promesse? Ça va mieux, n'est-ce pas? Ça va vous arroser, ça va vous enraciner, ça va vous fonder, ça va vous affermir. Lisez la Bible, puisez dans les eaux de l'esprit, priez en notre langue. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. On peut se bâtir sur notre très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Donc, marchez selon les instructions de la parole de Dieu. Numéro 2, marchez avec un cœur reconnaissant. Voulez-vous être un arbre au lieu d'un buisson desséché? Louez le Seigneur. Quand tout va bien, louez le Seigneur. Quand tout va mal, louez le Seigneur. Louez pas le Seigneur pour les problèmes. C'est pas lui qui les envoie. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire comme, bon, mais si tu as perdu ta job, remercie le Seigneur qu'il t'a fait perdre ta job. Non, probablement, si tu as perdu ta job, probablement, c'est toi. Ou c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est juste des circonstances. Mais c'est pas Dieu qui t'a fait perdre ta job. Hein, j'ai entendu des personnes qui étaient dans un accident d'auto, loue le Seigneur pour l'accident d'auto. Non, loue pas le Seigneur pour l'accident, loue le Seigneur malgré l'accident. Dis merci Seigneur que ce que l'ennemi a voulu pour me détruire, tu vas le changer pour ta gloire. Je te loue Seigneur parce que tu es plus grand que mes problèmes. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils n'ont pas dit, oh Seigneur, je te remercie Seigneur que les gens nous ont fouettés aujourd'hui. Nous te remercions Seigneur que je saigne mon dos et tout cinglant. Et Seigneur, je te remercie que ces hommes méchants nous ont mis en prison. Je te remercie, Seigneur, qu'ils nous ont arrêtés parce qu'on... Non. C'est pas ça. Ils ont loué le Seigneur pour qui il est, pour qu'est-ce qu'il fait, pour ses attributs. Mais on voit aussi que quand ils ont été relâchés, les apôtres suivants, ils ont remercié le Seigneur pour l'honneur d'avoir été persécuté pour la gloire de Christ, mais c'est pas Dieu qui a causé la persécution. Ils ont dit, Seigneur, on a subi les torts, mais je te remercie, et Seigneur, au moins, on était compté digne, Seigneur, d'être des bons témoins malgré tes problèmes. Loue pas le Seigneur pour les problèmes, mais au milieu des problèmes, loue le Seigneur. Ayez un cœur reconnaissant. C'est la reconnaissance qui garde la porte ouverte. Vous vous rappelez des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte? Ils étaient esclaves, ils étaient opprimés, ça allait mal en Égypte. Ils ont crié à Dieu, oh, délivrance, délivrance. Et Dieu a envoyé Moïse. Moïse est allé et il a fait des miracles, des signes et des prodiges. Et le peuple de Dieu est sorti d'Égypte sous la main puissante de Dieu. Les eaux de la mer Rouge ont été séparées, ils ont traversé un sec. Mais après, ils ont commencé à faire quoi? À se plaindre. Ah, oh, on est tanné. On n'a que du mal à manger. On veut de la viande. Oh, au moins en Égypte, on avait de la nourriture, la bonne nourriture. Ils ont commencé à se plaindre. Et savez-vous quoi? C'est cette attitude ingrate qui a fait en sorte qu'ils sont tombés morts dans le désert. Ils ont tourné en ronde pendant 40 ans. Ils n'étaient pas capables d'entrer dans la terre promise. Si vous voulez entrer dans la terre promise, si vous voulez être un arbre planté, il faut avoir un cœur reconnaissant. Remercie le Seigneur. Compte tes bénédictions parce qu'il y en a beaucoup. Amen. Numéro 3, marcher avec prudence par rapport aux philosophies trompeuses. Et regardez-moi, aujourd'hui, en 2008, il y a des philosophies trompeuses dans le monde. Le monde est rempli des fausses docteurs, des fausses doctrines. Des fois, ça prend en forme religieuse. Il y a beaucoup de traditions religieuses. Il faut qu'on fasse toujours attention, même nous, n'importe qui peut tomber dans le piège de devenir religieux. Vous êtes d'accord? Et si vous pensez que vous êtes au-dessus de cela, déjà vous êtes dans le trou. Combien c'est facile de s'éloigner de la simplicité de la parole de Dieu et de commencer à enseigner comme doctrine les traditions des hommes. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez anéanti la puissance de la parole de Dieu par vos traditions. Ils n'ont pas vu la puissance de Dieu à cause de leurs traditions, les choses des hommes. Juste cette semaine, j'ai écouté quelque chose, j'ai ouvert la radio, il y avait une émission religieuse. J'ai pas dit chrétienne, mais religieuse. Et laisse-moi vous dire, j'ai écouté ça, et moi, j'ai pas grandi avec cette atmosphère religieuse. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai pris le temps d'écouter qu'est-ce qu'il disait, et qu'est-ce qu'il répétait après, il répétait, c'est comme, ça c'est même pas biblique. Mais les gens font ça avec sincérité du cœur. Ils sont sincères, mais ils sont sincèrement à côté du trac, on peut dire. Donc, vous voyez, dans le monde aujourd'hui, on a besoin de faire attention, de marcher avec prudence. Si on veut être un arbre planté, la religion ne va pas vous garder dans le bonheur. La religion ne va pas vous aider à prospérer dans les années de sécheresse. Au contraire, souvent, la religion va vous dire que, bon, mais écoute, quand le mal vient, quand la maladie arrive, remercie le Seigneur. Le Seigneur essaie de te purifier par cette maladie. C'est pas ça qui marche. La religion ne va pas vous amener plus proche du Seigneur. La religion va tout simplement vous mettre dans une position où vous êtes susceptible aux philosophies humaines ou même mondaines. Et c'est pas juste la religion non plus. Aujourd'hui, dans les écoles, plein des philosophies qui sont en train d'être propagées. N'est-ce pas vrai? Plein de choses. Oh, mais écoute, peu importe qu'est-ce que vous croyez, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de croire en quelque chose. C'est pas vrai. Parce que si vous croyez que manger du poison, ça pourrait aider votre santé, vous avez tort. Il y a des personnes qui ont cru beaucoup de choses dans les années précédentes. Hein. Il y avait certaines personnes, certaines tribus primitives qui croyaient que quelqu'un qui avait un mal à la tête, c'est à cause d'un esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut percer un trou dans la tête pour laisser sortir le mauvais esprit. Est-ce que vous êtes content que les médecins du Québec ne recommandent pas cette procédure aujourd'hui? Vous avez mal à la tête, j'ai une bonne solution. Laisse-moi chercher mon marteau ou mon drill. C'est pas ça. Mais il y a des gens qui ont cru cela. Si vous êtes malade, bon, on va juste vous faire saigner un peu et on va laisser sortir les microbes. Et puis, on va laisser sortir la vie aussi. Croire quelque chose, c'est pas la solution. Croire la bonne chose, c'est la solution, n'est-ce pas? Il faut croire la bonne chose. Donc, marchez avec prudence. Si vous voulez être un arbre planté, il faut que vous connaissiez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous enraciner. La vérité va vous fonder et la vérité va vous affermir. Amen. Numéro 4. Marchez dans la lumière de votre alliance avec Dieu, avec Christ. Verset 9, Colossiens 2. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En fait, j'ai beaucoup aimé le verset précédent qu'il a dit que les tels enseignements s'inspirent des traditions de ce monde toutes humaines et élémentaires qui n'ont rien à voir avec le Christ. Les philosophies de ce monde ou de la religion n'ont rien à voir avec Christ, mais selon verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que vous avez en lui? Je vais juste faire une petite pause. Pensez à qu'est-ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous avez en Jésus-Christ? Vous avez tout un petit peu en lui? Ou vous avez tout quoi en lui? Pleinement. Regarde quelqu'un et dit vous avez tout pleinement en lui. Tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi que peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de moi, j'ai le Tout-Puissant et j'ai tout pleinement en lui. Je suis en alliance avec celui qui a tout et qui est tout pour moi. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été, quoi? Circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Pourquoi est-ce qu'il parle de la circoncision ici? Vous savez que dans l'Ancien Testament, la circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. C'était quelque chose que Dieu a demandé à son peuple de faire. Dieu a demandé à son peuple de faire une séparation, de couper la chair afin de démarquer, afin de démontrer que le peuple était particulier et que le peuple appartenait à Dieu. Je sais que c'est un sujet un peu délicat, la circoncision. Mais c'est quelque chose d'important. Parce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui était circoncis, c'était quelqu'un qui était en alliance avec Dieu. Amen. Rappelez-vous de David, quand il est allé voir face à face avec Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de ce géant, de ce Philistin incirconcis. Pourquoi est-ce qu'il a dit, oh, c'est incirconcis? Écoute, la signification était grande et profonde. Qu'est-ce que David était en train de dire? Comment ça? Que vous vous laissez traiter des chiens par cet homme qui n'est même pas en alliance avec le Dieu Tout-Puissant? Il n'a même pas d'alliance. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes circoncis en lui. Amen. Et si Dieu est en alliance avec nous, c'est-à-dire qu'il va combattre pour nous. Dans une alliance, on fait quoi? On fait un échange, n'est-ce pas? C'est une promesse solennelle. Quand on fait une alliance, on dit à une personne, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Et la personne dit en retour, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. On a des alliés. Vous avez tout pleinement en lui. Pourquoi est-ce que vous avez tout pleinement en lui? Parce que la Bible dit que quand Jésus fut ressuscité des morts, que Dieu a fait de lui le héritier de toutes choses. Savez-vous que quand Jésus est ressuscité des morts, qu'il a hérité tout ce qui est dans l'univers entier, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, tout ce qui est au-dessus de la terre, toutes choses appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'héritier de l'univers entier. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que je viens de dire? Cette semaine, Bill Gates a pris sa retraite de Microsoft. Vous avez entendu parler de ça? Bill Gates, c'est lui le cofondateur de Microsoft, que tout le monde aime ou haït, dépendant vos... Il y a des personnes qui travaillent avec les ordinateurs qui disent pas toujours les bonnes choses sur Microsoft, mais c'est l'homme le troisième plus riche du monde entier. Il a pris sa retraite pour pouvoir s'occuper de son travail bénévole. C'est gentil, n'est-ce pas? Mais regarde bien, Bill Gates... Tout le monde était émerveillé parce que il y a juste deux personnes sur la planète Terre qui ont plus d'argent que Bill Gates. Et quand on dit Bill Gates, on pense tout de suite, wow, c'est quelqu'un de fort, de puissant, qui a de pouvoir, d'influence. Savez-vous quoi? Il n'a rien comparé à Jésus-Christ, qui est héritier de toutes choses. Mais avez-vous remarqué, la Bible n'exagère pas dit, comment celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Donc, quand Dieu vous a donné Jésus, il vous a donné toutes choses avec lui. Et la Bible dit que vous êtes héritier de Dieu et quoi? Co-héritier de Jésus-Christ. Pauvre moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Oh, ils ont dit que le gaz va coûter 7 $ le gallon. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Penses-tu que Bill Gates s'inquiète pour cela? Je pense que non. Mais moi, laisse-moi vous dire une chose. Si on peut être conscient, avoir la révélation, je suis un arbre planté. Dieu est ma source. Je puise dans les profondeurs et tout ce que je suis, tout ce que j'ai appartient à Dieu et tout ce qu'il est, tout ce qu'il a m'appartient. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tout le monde dit, je suis co-héritier de Jésus-Christ. Tanya et moi, nous avons un compte conjoint. C'est-à-dire que tout ce que j'ai littéralement lui appartient. Tout ce qui est dans le compte lui appartient. Et tout ce qui est dans le compte, c'est à nous. Nous sommes une seule chair, une seule. La Bible dit, nous sommes une seule plante. Savez-vous que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ? Et que vous avez accès à son compte aussi. Nous avons un compte conjoint avec le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et si on marche dans la foi et si on s'occupe des affaires de notre Père, il va pourvoir tous nos besoins, n'est-ce pas? Si je m'occupe des affaires du Père, il s'occupera des miennes. Alléluia. Gloire à Dieu. Si je fais les affaires du ciel, c'est Dieu qui paye. Si je fais les affaires du Ken Taylor, juste mes choses charnelles, ça c'est notre histoire. Amen. Qu'est-ce qu'on était rendu à verset 11? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et en été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Voici la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'être circoncis dans la chair. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est une meilleure nouvelle pour quelques-uns que pour les autres. Mais Paul était clair là-dessus. Si vous cherchez la justification par la circoncision, Christ ne vaut plus rien pour vous. C'est pas la circoncision qui compte, c'est la nouvelle naissance, la Bible dit en Galates, n'est-ce pas? Donc, mais qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu? C'est que on a quand même besoin d'avoir une circoncision spirituelle. C'est une circoncision du cœur. Et ça, c'est une circoncision que la main de Dieu a accomplie aujourd'hui. Abraham, est-ce qu'il a été justifié avant d'être circoncis ou après? Avant, il a été justifié avant. C'est pourquoi le problème, Dieu a justifié Abraham parce qu'il a cru et il a demandé à Abraham de se faire circoncis avec toutes ses descendants. Mais le problème, c'est que les gens ont commencé à penser que c'est la circoncision qui égale la justification et pas la foi. Mais en Jésus-Christ, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Et c'est Dieu qui circoncit notre cœur. C'est sa main qui le fait. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et nous avons besoin maintenant de dire, Seigneur, merci. Et des fois, il y a un dépouillement de la chair. On a besoin de couper certaines choses de la chair pour vivre pleinement dans les choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Je pourrais prendre un mois pour ce sujet, mais on n'a pas le temps ce matin. Verset 12, « Et on a été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. » Dans l'Ancien Testament, les gens étaient capables de dire, « Nous sommes circoncis, nous sommes en alliance avec Dieu. » Aujourd'hui, on peut dire, « Je suis en Jésus-Christ, mort, enterré, ressuscité. » La circoncision, c'est une circoncision du cœur. J'appartiens à Dieu et Dieu m'appartient. Nous sommes en alliance. Numéro 5, on termine avec ceci. Qu'est-ce qu'on veut faire si on veut devenir un homme, trouver le bonheur, être stable dans la vie? Marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Tout le monde est nouveauté de vie. Écoutons ces versets pour terminer. Verset 13. Vous qui étiez quoi? Par vos offenses et par quoi? L'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Avez-vous remarqué les choses dans ce verset? Regardons, on va juste souligner plusieurs choses. Première chose, on voit qu'on était tous morts. Même des personnes qui marchaient, qui étaient en vie physiquement, spirituellement. La Bible dit que nous sommes tous morts dans nos péchés. Savez-vous que la plupart des personnes qui se promènent dans Drummondville sont morts? C'est comme le titre d'un film d'horreur, n'est-ce pas, hein? Les morts vivants, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il y a. Il y a des morts vivants. Ils sont vivants physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. C'est quoi la mort? C'est une séparation avec Dieu. Et la Bible dit que vous étiez tous morts dans l'incirconcision de votre chair. C'est-à-dire que si vous, surtout vous qui n'étiez pas juifs, dans le naturel, vous n'avez, la Bible dit qu'on était éloignés, on était sans Dieu et sans espoir dans ce monde, parce qu'on n'avait pas d'alliance. On était des étrangers à l'alliance de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, les juifs et les non-juifs, ensemble, nous faisons une seule personne, un seul homme. Savez-vous que quand Dieu a donné la promesse à Abraham, il a dit que en vous et dans votre semence, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est quoi la semence d'Abraham? La Bible dit clairement en Galates, Jésus-Christ est la semence d'Abraham. Et en Jésus-Christ, tous ceux et celles qui sont nés de nouveau peuvent recevoir cette circoncision du cœur. Et on peut passer de la mort à la vie. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a quoi? Rendu à la vie. Soulignez cela. Regarde, quelqu'un a dit, il vous a rendu à la vie. C'est avec lui. En nous faisant grâce. Regarde, quelqu'un d'autre a dit, il vous a fait grâce. Il vous a fait grâce pour quoi? Pour toutes nos offenses. Peu importe qu'est-ce que vous avez fait. Peu importe les crimes que vous avez commis, peu importe les péchés que vous avez accomplis sur la terre, Dieu nous a fait grâce pour nos offenses. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, il a effacé mon dossier. Moi, j'ai un ami qui est missionnaire aujourd'hui, dans un ancien pays de l'Europe de l'Est, c'est quelqu'un que je connais. Et lui, il a passé des années en prison. Et vous savez que c'est pas facile d'avoir un visa pour aller dans un autre pays si on a un dossier. Mais ce monsieur-là, il était en prison et puis il a été relâché. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais quelques années après, il est allé voir les autorités parce qu'il avait besoin de vérifier quelque chose. Et il a demandé quelque chose à propos de son dossier. Ils ont dit, mais désolé, monsieur, mais on ne trouve rien dans notre système. Vous êtes sûr que vous avez un dossier? Ah oui, il avait tout un dossier. Mais là, son dossier n'existe plus. Perdu. Et il est missionnaire depuis des années dans un autre pays. Merci Seigneur. Mais savez-vous quoi? En Jésus-Christ, notre dossier est complètement effacé. Ça n'existe plus. Dieu pèse sur le bouton delete, supprimer, boum, c'est plus là. Vous savez que si on veut supprimer quelque chose dans un ordinateur, que ça va dans la corbeille, n'est-ce pas? C'est dans la poubelle. Mais si on veut vraiment, on peut aller dans la poubelle et on peut chercher et trouver le document qu'on a jeté, n'est-ce pas? Problème avec beaucoup de chrétiens, ils fouillent trop souvent dans la poubelle. Ils cherchent les vieilles affaires. Mais savez-vous quoi? Si vous avez vraiment confessé votre péché, si vous êtes vraiment en Jésus-Christ, vous ne trouverez rien parce que c'est plus là. C'est juste une image de poubelle que le diable a pris et il peut dire, ah oh, oui, oui, c'est là, c'est là, oh, c'est tout classé ici. Et le diable, il y a quelques images qui restent, quelques photos de vos versets qu'il peut vous montrer. Mais Dieu s'en souvient plus. Il a mis tout cela dans la mer d'oubli. Amen. Quand lui, c'est supprimé pour vrai, c'est plus sur le disque dur. Amen. Alléluia. Il nous a rendus à la vie, il m'a fait grâce pour toutes nos offenses, il a effacé, c'est-à-dire qu'il a effacé mon dossier, amen. Comment est-ce qu'il a effacé? C'est pas juste une affaire simple, ok, bon, c'est pas grave, qu'est-ce que tu as fait, je sais que tu as fait ça, ça et ça, c'est pas grave, je te fais grâce. Non, c'est plus que ça. Il a cloué mon dossier à la croix, c'est-à-dire qu'il a payé la dette de mes péchés et de mes offenses. Il a dit, écoute, pour être juste, je peux pas juste dire laissez faire, c'est pas grave, je vais fermer mes yeux. Pour être juste, quelqu'un doit être puni. En fait, quelqu'un a besoin de mourir pour qu'est-ce que tu as fait. Ses crimes sont graves, ses péchés sont sévères, alors quelqu'un doit souffrir. Mais je t'aime tellement que ça serait plus toi qui dois souffrir, je vais prendre ta place. Quel amour que le Seigneur nous a montré. Amen. Et il a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. N'est-ce pas bon que Dieu, à Jésus lui-même, il a vaincu mes ennemis? Satan et tous ses émissaires ont été vaincus, désarmés. Maintenant, l'adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il va essayer de vous faire peur, il va essayer de vous mentir, dire que vous êtes bon à rien, que vous êtes un buisson desséché, mais vous allez pouvoir dire non, c'est pas vrai. Vous rôdez comme un lion, mais vous n'avez plus de dents. Amen. Parce que Dieu vous a désarmé, il a fait un spectacle de vous publiquement en triomphant par la croix et par la résurrection. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Buisson séché ou arbre planté. On va se lever debout, on va prier ce matin. Buisson séché ou arbre planté. Si on veut être un arbre planté, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour marcher dans le bonheur et la stabilité, marcher selon les instructions de la parole. Marcher avec un cœur reconnaissant. Marcher avec prudence par rapport aux philosophies trompeuses. Marcher dans la lumière de votre alliance avec Christ. Et marcher en nouveauté de vie. Ne laisse pas votre passé vous harceler, vous hanter, mais sachez que vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Ça, c'est la beauté de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. La religion montre aux hommes les trucs, les moyens de se justifier et de s'approcher de Dieu. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Dieu savait qu'on était dans l'incapacité et dans l'impossibilité de s'approcher de lui. Et c'est pourquoi il est venu nous rejoindre. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour nous donner une vie nouvelle. Jésus est venu pour qu'on puisse devenir les arbres plantés près des courants d'eau et de ne plus être les buissons séchés qui vont bien quand les circonstances vont bien et qui vont mal quand les circonstances vont mal. Mais ceux qui peuvent être des arbres stables, qui peuvent voir venir le bonheur, qui s'inquiètent de rien, même dans une année de sécheresse, ils s'inquiètent de rien. Ils ne cessent de porter du fruit. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, c'est ma prière ce matin, c'est que chaque homme, chaque femme puisse prendre une décision de devenir un arbre. Mais savez-vous, avant de devenir un arbre planté près des courants d'eau, il faut recevoir la semence. Il faut que la semence soit plantée dans votre cœur. Quelle semence? La semence incorruptible de la parole de Dieu. En fait, la semence d'Abraham. La semence d'Abraham. Vous savez quoi? Que quand Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner un fils dans sa vieillesse, que ce fils fut né, on a eu Isaac, on a eu Jacob, et à travers sa descendance, on a vu venir sur la terre et dans le monde la naissance de la semence, la postérité d'Abraham, la postérité de David. Il a vécu 30 ans sur la terre, une trentaine d'années, puis commencé un ministère qui a duré une troisaine d'années. Il fut crucifié, cloué à la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Il était enterré, le troisième jour ressuscité. Aujourd'hui, si on lit dans l'Apocalypse, vous savez qu'est-ce que Jésus dit à propos de lui-même? Il dit, « Je suis le rejeton de David. Je suis la postérité de David. » Aujourd'hui, Dieu et homme unis ensemble pour l'éternité. Dieu s'est fait chair. Et aujourd'hui, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, la semence incorruptible, la semence de Jésus-Christ va entrer dans votre cœur et vous aurez la capacité de grandir et devenir un arbre planté près des courants d'eau. Donc, je veux juste vous donner l'occasion maintenant. Tout le monde peut juste penser à ça. Si vous quittez la bâtisse aujourd'hui et votre cœur arrête de battre et vous tombez mort, est-ce que vous êtes convaincu que vous avez déjà été régénéré ou né de nouveau par la semence incorruptible de la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est entré dans votre cœur? Vous dites, « Oh, mais je crois en lui, c'est pas assez. » La Bible dit que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. « Oh, mais je lis la Bible. » Lire la Bible, c'est pas assez. « Je vais à l'église. » Aller à l'église n'est pas assez. La seule façon de devenir un arbre, c'est d'être né de nouveau par la semence de Jésus. Et la seule façon d'être né de nouveau, c'est de confesser avec sa bouche et de croire dans son cœur. Et Jésus a dit ceci, si tu me confesses avec ta bouche, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Combien de vous aimeriez que le Seigneur Jésus nous confesse devant le Père? Mais il a dit ceci, si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père aussi. Donc, n'aie pas honte. Pose-toi la question. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Sinon, je vais compter à trois. Je vais taper ma main. Et si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin et tu n'as pas honte de dire même devant les autres que tu veux suivre Jésus, ou si tu as besoin de revenir à Jésus, tu as déjà cru en lui dans la passée, mais tu t'es éloigné et tu veux revenir aujourd'hui, juste lever la main aussi. Donc, qui veut donner sa vie à Jésus ou qui veut revenir à lui? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne ici qui veut revenir à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui veut venir à Jésus-Christ? Je lève la main, n'ayez pas honte, Jésus l'a dit. Une personne qui veut revenir à Jésus, mais il y a quelqu'un pour la première fois qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Je pense qu'on a tous besoin de prier cette prière. Et on va remercier le Seigneur. Priez avec moi. Père Céleste, je veux être un arbre planté près des courants d'eau. Je ne veux pas être un buisson desséché, mais je veux te servir. Je veux vivre dans le bonheur et dans la stabilité. Donc, je te donne toute la place dans mon cœur pour que je puisse grandir
et être enraciné, fondé, affermi dans la foi. Au nom de Jésus, je te remercie que même dans l'année de sécheresse, je n'ai rien à craindre. Je ne m'inquiète pas. Je reste planté. Je porte toujours du fruit. Et le monde peut me voir et même trouver du refuge dans les branches de ton Église dont je fais partie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la personne qui veut revenir au Seigneur ce matin? Et on va chanter en dernier temps. Je vous encourage. Venez la semaine prochaine, amenez des personnes avec vous, vous allez avoir un bon message. N'oubliez pas aussi le 13, vous aurez l'invité spécial Pierre Cyr. Et priez pour nous, on va prier pour vous. Et nous vous aimons de tout notre cœur. Nous amenons toujours chacun de vous dans nos cœurs avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Chantons et célébrons au nom de Jésus.